Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Adèle Caglard. Porter son regard cette semaine sur Amérique de Baudrillard, paru en 1986, texte dans lequel le philosophe décrit avec lyrisme sa fascination pour cet empire obscène d'espace, de vitesse et de superficialité. Écoutez la musicalité, on dirait de la poésie en prose. Ce pays est sans espoir. Les ordures même y sont propres, le trafic lubrifié, la circulation pacifiée, le latent, le laiteux, le létal, une telle liquidité de la vie, liquidité des signes et des messages, une telle fluidité des corps et des bagnoles, une telle blondeur des cheveux et une telle luxuriance des technologies douces y font rêver l'Européen de mort et de meurtre, de motels pour les suicidaires, orgies and cannibalism, pour faire échec à cette perfection de l'océan, de la lumière, à cette facilité insensée de la vie, à l'hyper-réalité de toute chose ici. Musicien et producteur, notre invité a fait partie du groupe post-punk mythique Taxi Girl, dissous au sommet de sa gloire, avant de produire et de composer pour d'autres artistes tels que Yasmine Hamdan, Carole Lor, Uffy et surtout Madonna, dont il a signé de nombreux tubes, de musique à la chanson générique du 20e James Bond, Die Another Day. Visionnaire mélancolique, il fut l'un des premiers à utiliser l'autotune après Cher, précise-t-il. Quand il ne crée pas pour les autres, il façonne un univers singulier sur des albums solo, dont le troisième, The Retro Future, devrait sortir bientôt. À signaler aussi un roman le 25 août prochain chez Séguier, intitulé Les Tout-Puissants.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Mirwais.
Bonjour Eva.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Oui, bien sûr. C'est une affirmation. C'est à sens unique. Hein. On revient plus tard peut-être quelque part, mais moi je suis justement dans les questions que vous me posiez, quel écrivain, Nietzsche, tout ça, moi j'ai cité Nietzsche, oui, c'est Nietzsche qui dit oui.
Ouais, l'éternel retour.
Oui, l'affirmation surtout.
Beaucoup de gens diraient non à cette proposition de revenir sur Terre et de vivre exactement la même vie en tout point.
C'est pas exactement ça qu'il disait, mais ce que je veux dire c'est l'idée de dire oui à votre destin, à mort fatum,
tout ça quoi. C'est l'approbation.
Ouais.
Mirwais, vous avez traversé des périodes noires, quelques épisodes dépressifs et 39 ans de galère, je le dis puisque vous le dites dans des interviews, donc c'est public. Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Alors, je précise juste, 39 ans de galère, c'est de galère contre un système. C'est pas 39 ans de galère. Déjà, j'ai eu deux enfants, j'ai vécu. C'est-à-dire, et j'ai fait des choses que je trouvais très belles musicalement sur tous les projets que j'ai faits. C'est juste que bon, voilà, c'est-à-dire il y a l'individu et il y a ce qui est autour. Et donc des gens comme moi qui sont un peu dès le départ, hein, c'est-à-dire je m'appelle Mirwais Amadzai, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans en Afghanistan, j'arrive dans les années 60 et je décide de faire du rock à une époque où personne faisait du rock.
Vous êtes né en Suisse et vous êtes d'origine italienne aussi, je crois.
Ouais, je suis moitié afghan, moitié italien. Et je suis né en Suisse parce que mes parents se sont rencontrés en Suisse, tout simplement. Et donc après, je suis parti en Afghanistan et je suis revenu dans les années 60, hein, 66, je suis né en 1960. Donc, en choisissant de faire du rock, c'est-à-dire en 72, hein, j'ai commencé très très jeune à faire de la guitare, je ne pouvais que me marginaliser, c'était impossible autrement. Et puis de toute façon, c'est ça qui m'intéressait. Donc voilà, après... la galère, non, c'est qu'en fait, j'avais fait une série d'interviews à l'époque de Music et de mon album précédent, Production, en 99, où on a un peu orienté les choses sur le miraculé, le gars qui revient, l'exemple, celui qui le mérite. C'est-à-dire le mérite d'avoir résisté au méchant système. Mais c'est pas du tout ça, moi je n'avais rien à foutre. C'est-à-dire, moi je me protégeais du système. C'est-à-dire, je pense pas que ce que je vivais à l'époque soit possible aujourd'hui, c'est-à-dire vivre avec très 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 peu d'argent et faire de la musique. Et vous loger dans le centre de Paris, là, les temps ont changé, hein, malheureusement.
Hein. Oui, oui. Mirwais, le soleil vous donne envie de vous lever, mais j'ai l'impression que c'est presque métaphorique, parce que vous ajoutez « la lumière très précise me donne envie de le faire, la plupart de nos choix sont dictés par l'éclairage qui nous est donné des situations, il est très difficile de se lever dans l'obscurité ». Il y a plusieurs niveaux de lecture.
Oui, c'est-à-dire, c'est qu'en fait, je pense sincèrement que effectivement, l'idée de d'avoir la bonne vision et le bon éclairage des choses vous aide à identifier les problèmes et à faire des choix dans la vie. Donc c'est un peu psychanalytique, hein. J'ai fait une psychanalyse aussi. Et c'est-à-dire parfois, vous savez, les souvenirs, vous gardez les souvenirs dans votre mémoire il y a 20 ans, 30 ans, et puis vous pensez qu'ils sont neutres. Puis un jour, au gré d'un événement, vous remémorez les choses et donc vous avez un nouvel éclairage. Donc c'est ça en fait. Et donc le soleil, mais moi c'est très tardivement, je supportais pas le soleil, hein. J'étais un oiseau de nuit, bon pas comme Christophe, mon ami qui est mort il y a longtemps, mais moi ce que je voulais à 12 ans c'était aller jouer sur scène, faire partie d'un groupe, dans le noir quoi, je m'en foutais du soleil. Et après c'est tardivement, c'est arrivé parce que on comprend mieux les choses un peu plus tard quoi.
Mais la lumière, la couleur, j'ai l'impression que c'est très important pour vous, Mirwais. Je pense, par exemple, quand vous êtes arrivé en studio, j'ai à côté de moi le livre Siva de Philippe K. Dick, dont on va parler tout à l'heure, pas tout de suite. La couverture est indigo. Je sais que ça vous a influencé pour votre livre à venir. Et dans le livre, le héros est frappé par une lumière qui change absolument toute sa perception
violette,
des choses.
Psychédélique. Et cette lumière violette pourra expérimenter des acides quand j'étais très jeune. Je l'ai vu un jour, donc... Et je trouve ça très très beau. Il faut expérimenter ça de temps en temps, pas tout le temps. Mais
Alors là, je me dois de faire la voix du service public qui dit attention, ne consommez pas de drogue.
Non, il ne faut pas consommer de drogue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de consommer de drogue pour avoir des espèces de révélations comme ça. Et cette lumière, elle est intéressante. Et donc, dans le roman, c'est un peu décrit. Le roman est totalement incompréhensible.
Oui, totalement. Au début, ça part normalement, puis après...
Oui, après ça...
On va y revenir. Laissez-moi annoncer le sommaire, parce qu'on a tellement de choses à aborder. Ouais. On va essayer d'avoir le temps de parler de Nietzsche, de Freud, de situationnisme, d'Apocalypse Now, d'Aristote, de Dostoïevski, de Baudrillard, de Philippe K. Dick, de Werner Herzog et de falsification. Ça va durer un an à peu près.
Non, les propos très rapidement.
Et nous, on sait, dissimulerons peut-être d'autres significations. Mmh. Nous flirterons avec la schizophrénie et le brouillage des représentations du réel. Mais avant de devenir fou ou lucide, puisque c'est la même chose, écoutons l'un de vos tubes, Mirwais, qui fut utilisé par McDonald's, Apple et la série télévisée Clara Scheller en générique. We'll be right back. Love Song de notre invité Mirwais dans L'Embellie sur France Inter, titre paru sur l'album Production. Je vous ai demandé ce que vous aimeriez changer dans la société. Vous avez répondu, on n'en peut plus de la société. Tous ces gens qui hurlent pour se faire élire ou gagner de l'argent. Et puis nous qui hurlons ensuite parce que rien jamais ne change ou très peu. Qu'est-ce qu'on pourrait changer concrètement? Moins de hurlements, de réels changements, mais possible.
Mais j'ai commencé par dire, pour répondre, je me souviens, j'ai dit il faudrait peut-être changer la société elle-même. Alors comment? C'est très complexe. Donc
une révolution, une destruction.
Non, une révolution, c'est un tour, c'est un cercle.
Oui, on revient au même endroit.
Non,
un
parce
triangle.
Que dans les révolutions, le problème, c'est qu'on a bien vu. Bon, un des meilleurs exemples, c'est la Révolution française. Ça s'est terminé avec un empire, avec Napoléon, dictateur éclairé, tout ça. Mais à un moment donné, bon, bah, c'est l'organisation humaine, quoi. C'est-à-dire, c'est le problème de. Je dirais des sources d'approvisionnement, du point d'eau, comme bien décrit dans 2001. Parce que les gens n'ont jamais compris 2001. Enfin, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas la signification des singes dans 2001. Quel est le rapport avec l'Odyssée de l'espace? Mais c'est, en fait, c'est le problème des points d'eau. C'est-à-dire, qui contrôle le point d'eau? Dès qu'on découvre une arme, donc c'est ce qui était le cas dans 2001, un os, et voilà. Et donc, il y a un bond en avant de l'évolution humaine, mais aussi avec la violence.
Et donc, les révolutions. En arborescence.
Voilà. Et la révolution, le problème, c'est que fait énormément progresser les sociétés, comme toutes les guerres, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, là, on est en train de progresser énormément, mais pas tout de suite, mais.
Oui.
Mais à la fin, c'est toujours, ça se termine toujours par des hiérarchies.
Mais alors, je vous dis oui, Mirwais, mais attendez, en fait, non, c'est pas évident. Le progrès, il est pas évident. Le progrès de la guerre.
Par exemple, la Seconde Guerre mondiale a fait avancer la technologie d'une manière folle.
C'est, oui, d'accord, dans certains domaines précis.
Oui, parce que derrière la bombe atomique, bah, il y a la fission atomique.
Mais est-ce que c'est un progrès humain?
Mais c'est comme la télévision. La télévision, c'est un super outil. Mais qu'est-ce qu'on en a fait à la fin? Donc c'est toujours le même problème. Instagram est un super outil, les réseaux sociaux. C'est un super outil parce que je suis une des rares personnes à dire que, par exemple, Instagram ou Facebook, c'est quelque chose de totalement nouveau pour un artiste. C'est-à-dire une régie publicitaire autonome gratuite. Donc si vous avez 1 million de followers ou 10 millions, vous pouvez vous affranchir des labels, parce qu'il suffit de diffuser vos tracks à vos fans.
Mais il y a une autre forme d'esclavage. Vous êtes l'esclave de l'image, vous vendez.
Pour le moment, ça reste gratuit. Mais c'est l'utilisation. Si vous mettez votre gueule tous les jours et vous montrez vos fesses aussi, parce que c'est surtout ça. Donc évidemment, c'est dévoyé tout de suite. Donc comme la télévision. La télévision n'a pas été prévue pour faire des bêtisiers. Vous voyez ce que je veux dire de fin d'année. Mais à la fin, c'est ça. Parce qu'il y a les problèmes d'audience et tout ça. Et donc, la technologie, les guerres et les grandes crises font avancer. Mais malheureusement, et les révolutions aussi font avancer la société. La Révolution française a fait extrêmement avancer la société mondiale. Mais à la fin, ça s'est terminé un empire qui n'était pas l'empire le plus terrible du monde. Enfin, c'est-à-dire, bon, Napoléon, il était un peu. Bon, voilà, il y a beaucoup à discuter. Je ne serai pas là et je ne vais pas en parler là. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses avancent. Mais quelle est l'utilisation qu'on en fait? C'est comme l'argent. Hein. Moi, je prends l'exemple souvent de l'argent. Oui, lui, là, il est milliardaire. On l'admire. Et moi, je dis, en quoi il est admirable? C'est-à-dire, il est admirable en fonction de l'utilisation de l'argent qu'il fait. C'est-à-dire, t'as beaucoup d'argent, mais t'en fais quoi? C'est surtout ça. Moi, je suis pas contre, mais tu en fais quoi, ton argent? Voilà, et donc la révolution, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait de la révolution? Comment on change la société?
Message de l'international situationniste.
Les situationnistes envisagent l'activité culturelle du point de vue de la totalité comme méthode de construction expérimentale de la vie quotidienne, développable en permanence avec l'extension des loisirs et la disparition de la division du travail, à commencer par la division du travail artistique.
L'art peut cesser d'être un rapport sur les sensations pour devenir une organisation directe de sensations supérieures. Il s'agit de produire nous-mêmes et non des choses qui nous asservissent.
On va découvrir les œuvres d'art et personnalités qui vous ont aidé à faire face au monde, Mirwais. Là, on entend Guy Debord et Serge Corbert en 1959 dans l'un des 5 enregistrements magnétiques réalisés par deux bords. C'est pour ça que je parlais un peu de révolution. Je ne peux pas réagir à tout ce que vous dites parce que ça va à toute vitesse en arborescence et sinon il nous faut 8 heures devant nous. Mais je vous laisse nous parler du rôle qu'a eu la découverte du situationnisme dans votre vie. Et si vous pouviez d'ailleurs essayer de résumer le mouvement aux auditeurs, bah, c'est pas si évident, c'est à la fois artistique gens, et révolutionnaire.
Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Le situationnisme est souvent réduit à Guy Debord et à son livre de la société du spectacle. Mais en fait, il faut comprendre la société du spectacle. Le spectacle, vous remplacez spectacle par marchandise. En fait, c'est ça dont il parle. C'est-à-dire, il parle d'une espèce d'accumulation.
C'est marxiste.
Voilà, spectacle. En fait, c'est très simple. Il partait du principe que la vie, enfin la vie telle qu'il la connaissait à l'époque en tout cas, était une succession de moments inertes et que le seul remède à ça, c'était de créer sa propre situation. Et donc ça, c'est valable pour n'importe qui, hein. C'est-à-dire pour un grand criminel. Poutine, il a créé sa situation, hein. C'est-à-dire, ou un artiste, et c'est la seule façon de vivre, réellement. Donc c'était un peu ça, l'idée du situationnisme. On arrête, on casse le lien au héros, parce que la révolution, c'est le héros. C'est-à-dire, actuellement, mais, qu'il le soit ou pas, peu importe.
Oui, mais tout est faux, ça, on va y revenir, c'est la grande falsification.
Et donc, voilà, donc on parle de falsification. Eux, ils parlaient de ça, et il y a autre chose, bon, parce que le situationnisme, il y a beaucoup de choses à dire. Ils parlaient aussi de l'art, et leur rapport à l'art est fantastique. Ils disaient, casser le code de votre relation au héros et monter sur scène. Parce qu'ils partaient du principe que l'art a été liquidé. Bon, après, on peut en discuter, hein, je ne vais pas entrer sur le débat là. L'art avait été liquidé par les surréalistes et qu'à partir des années 50, ce n'était plus qu'une répétition des choses. C'est-à-dire, et d'où le thème de mon album, Retrofuture, qui parle de la falsification. C'est-à-dire, c'est ou des updates ou des falsifications. Donc moi, Coppola disait ça aussi. C'est vachement intéressant parce qu'on lui disait là récemment, mais pourquoi vous faites plus de films ou pas beaucoup ? Il disait, il n'y a plus que des remakes. Donc moi, j'ai plus loin. Moi, je dis, quitte à faire des remakes, non, pas des remakes, des updates, autant faire des belles choses.
Des mises à jour.
Des mises à jour, mais des vraies.
Cette réalité intégrale, elle passe par la mondialisation, enfin ce qu'on appelle la mondialisation. Hein, c'est-à-dire que tout passe dans une circulation ininterrompue, hein, que tout soit immédiatement un objet d'échange, l'échange généralisé, que ce soit celui des valeurs, des messages, des signes, des images, enfin bon, à ce moment-là, les choses n'ont plus ni de cause, ni d'effet, ni de finalité surtout, elles n'ont plus de fin. Alors elles deviennent, justement parce qu'elles n'ont plus une limite, une mesure, une fin, qui leur donnait une raison, que ce soit la raison politique, la raison historique, elles deviennent exponentielles, elles se développent pour elles-mêmes, avec toutes les virtualités techniques de se réaliser.
Jean Baudrillard, au micro de Frédéric Bonneau dans l'émission Charivari sur France Inter en 2004, au moment de la sortie de son livre « La perte de lucidité ou l'intelligence du mal ». Vous avez choisi son essai de 1981, « Simulacre et simulation », un livre sur lequel on devrait se repencher en 2022, selon vous, et un livre dans lequel on peut lire cette fameuse phrase « Nous sommes dans un univers où il y a de plus en plus d'informations et de moins en moins de sens ».
En fait, ça rejoint d'une certaine manière le début de la société du spectacle où il citait, je crois, le philosophe Feuerbach. Le faux, enfin ça c'est plutôt, c'est Debord qui disait ça, c'est que le vrai sera un moment du faux.
C'est sûr qu'il n'y a même plus de copie puisque la copie renvoie à quelque chose de réel. Là, la simulation, c'est qu'on vous fait croire
quelque chose
que c'est...
quelque chose qui n'existe pas.
Oui,
en
voilà,
fait.
C'est du vide.
Bon bah, si vous voulez avoir une définition d'Instagram, par exemple, c'est exactement ça.
Ou les NFT.
Alors les NFT, c'est encore autre chose,
ah, oui,
si on peut en parler.
Il y a des marques qui habillent des entités virtuelles. Il y a des marques de vêtements qui habillent des entités virtuelles.
Mais le NFT est certifié, c'est pas pareil, par une blockchain. C'est,
moi, je vais mourir d'une crise. C'est là que je ne comprends rien, je ne
le
vous
NFT,
suis pas.
Non, en fait, le NFT, c'est assez simple. C'est une art. C'est, on appelle ça de l'art algorithmique. C'est-à-dire.
Les petites icônes pour les auditeurs,
voilà,
qui n'auraient pas.
Donc, c'est de l'art digital. Ça peut être. Par exemple, une photo prise avec un appareil photo. Mais qu'est-ce qui le rend unique ? C'est que vous allez sur un site. Alors, il y a des sites qui s'appellent OpenSea, Rarible, tout ça. Et. Il le transforme, c'est de la chimie. Il le transforme, il vous donne un numéro unique, infalsifiable.
Mais c'est virtuel, tout ça est virtuel.
C'est virtuel, mais donc il y a des artistes qui vendent comme Beeple, 69 millions de dollars, une art. Donc moi, je dirais pas que je suis contre. C'est-à-dire, c'est que en fait, il faut faire la différence entre sur les NFT entre ce qu'on appelle les collectibles. C'est-à-dire les cartes Pokémon, Matrix sort un film et ils vont vous en distribuer 100 000 en digital. C'est comme quand vous allez dans les stations-service. Et ce qu'on appelle le fine art, c'est-à-dire, et ça va se développer, c'est sûr, parce qu'il y a des œuvres très intéressantes à faire, mais ça va mettre un peu de temps pour se réguler, à mon avis. Ça va mettre au moins 10 ans, je pense.
Et alors, pour revenir au simulacre et à Baudrillard.
Le simulacre, c'est ce qu'on vit. Ce que je veux dire, c'est que c'est le thème même de mon disque. C'est-à-dire, chaque titre de mon disque, et j'ai commencé avec My Generation, qui s'appelle 2016, comporte une date. En fait, c'est l'idée de la falsification. C'est-à-dire, chaque titre comporte une date, parce que chaque titre est falsifié, en fait, dans le sens où il est fait, il a été composé électroniquement. C'est-à-dire, c'est quand les gens me disent « Ouais, tu fais de la musique électronique. » Moi, je dis « Mais regardez, Nile Song, ça a été composé il y a 24 ans, 23 ans. C'est de la musique électronique, mais c'est vieux. J'allais pas refaire ça. » Et donc, la proposition de mon album, c'est de dire « Voilà, il y a d'autres façons de faire la musique électronique. » C'est en prenant justement les outils du passé, ou peut-être des choses qui n'existent pas encore, et on le falsifie, c'est tout. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. On ne peut plus rien faire. L'art a été liquidé. Je suis d'accord avec les situationnistes.
Waouh. Je vais réagir à ça en lançant l'extrait d'un film dont parle Baudrillard dans Simulacre et Simulation.
Sagan. Shit. I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle. When I was home after my first tour, it was worse. I'd wake up and there'd be nothing.
1979, adaptation libre d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, le film Apocalypse Now de Coppola, extrait situé au début, le commandant Willard, incarné par Martin Sheen, est seul dans sa chambre d'hôtel à Saigon. Il exhale le mal-être et se lamente d'être encore dans cette ville.
Non, il a décidé de revenir. Il avait une dépression majeure en Amérique, il ne savait plus quoi faire.
Ouais, il est quand même...
Il s'est réengagé, quoi.
Oui, mais il n'est pas très heureux de se réveiller là quand même.
Il n'est pas du tout heureux, il a un problème.
Baudrillard parle de ce film dans Simulacre et Simulation. Il dit que le côté spectaculaire du film rejoint en fait la guerre qu'il représente. Et Coppola lui-même disait « Ce film n'est pas sur le Vietnam, c'est le Vietnam ».
Mais oui, parce que, en fait, Apocalypse Now, comme certains des films de l'époque sur le Vietnam, je ne parle pas de Chuck Norris. Hein, en gros, Apocalypse Now, Deer Hunter, on parlait du Vietnam, d'une manière honnête et authentique. Et ensuite, dans les années 80, l'ère Reagan, il y a eu Chuck Norris, ils sont allés chercher les boys. Mais et donc, ils ont gagné la guerre du Vietnam. Sauf qu'en fait, la réalité, ils se sont fait botter le cul, c'est-à-dire par les Vietnamiens et les Chinois, et qui vous voulez. Ils l'ont perdu, la guerre du Vietnam, les Américains. Mais sauf que grâce à Hollywood, ils l'ont gagné 7 ou 8 ans après. Donc, Apocalypse Now, c'est intéressant parce que c'est un film qui parle de ce qui s'est passé et ce qui doit se passer actuellement dans la tête des soldats. La guerre, c'est horrible. Moi, je vais vous donner un chiffre. Les gens savent pas. Tout le monde connaît le chiffre des Américains morts au combat au Vietnam. Ils sont 55 000 et des poussières. Il y a très peu de gens qui savent combien de gens sont morts au Vietnam, Cambodge, Laos, du sud de la guerre. Plus de 2 millions quand même. Hein. Et la guerre d'Afghanistan, c'est pareil. Les Russes, ils se lamentaient pendant je sais pas combien de temps. On a perdu 15. C'était horrible. Vous savez combien d'Afghans? Moi, je suis moitié Afghan. Mon père a été cadre pour la résistance afghane. Il y a eu plus d'1,5 million morts. Et c'est pour ça qu'Apocalypse Now, je pense, c'est une des très rares représentations de ce qu'est la guerre. C'est psychédélique, en fait, tout simplement. Le paysage mental d'un soldat, quel qu'il soit, d'abord, on leur donnait des drogues, hein, y compris Première Guerre mondiale. Hein. Les Allemands, c'était le schnapps, et les autres, la petite bibine. Donc, dans toutes les guerres, on utilise les drogues. Et au Vietnam, les drogues étaient massives, c'est tout. Donc, ils étaient complètement défoncés, comme ils doivent être défoncés, certainement. Peut-être pas les Ukrainiens, ça c'est encore autre chose. Je suis pas assez renseigné, on n'a pas assez de...
On va se renseigner.
Voilà, donc mais ils se défoncent, quoi.
May I tell you how much I appreciate your asking me to share some of my ideas with you?
Je dois vous dire combien j'apprécie que vous m'ayez demandé de partager quelques-unes de mes idées avec vous.
The title of my address is If you find this world bad, you should see some of the others.
Le titre de mon discours sera Si vous trouvez ce monde mauvais, vous devriez voir quelques-uns des autres.
On arrive à celui qui a donné ses lettres de noblesse à l'éclatement de l'unité du réel et de l'identité, Philippe K. Dick. Là, c'est une conférence donnée à Metz en 1977. Mir Weiss, vous avez choisi son livre de 81, Siva, le premier tome de ce qu'il a appelé la trilogie divine. Complètement incompréhensible, mais curieusement pénétrant, ça me fait penser au LSD que je prenais quand j'étais très jeune, dites-vous. Et c'est vrai qu'en fait, on est vraiment perturbé, parce que dès le début, en fait, il y a un narrateur qui parle, il raconte, il parle de quelqu'un à la troisième personne, puis finalement il dit la personne dont je vous parle à la troisième personne, c'est moi, mais après, il s'en différencie à nouveau en disant qu'il l'a fréquenté.
Moi, je pense que Philippe K. Dick et je pense Burroughs, William Burroughs aussi, sont très importants aujourd'hui, pour une raison très simple. C'est qu'il y en a marre de la logique, il y en a marre qu'on vous explique toute la journée, si, ça, dans les détails, et qu'à la fin, vous vous rendez compte que les gens qui vous expliquent, pas tous, hein, on va pas de parano, mais un sur deux, il fait le contraire. Donc un peu de poésie, quoi. C'est-à-dire, et le non-logo, c'est-à-dire, il faut arrêter. C'est-à-dire, et moi, je m'intéresse beaucoup en ce moment à ça, alors que j'ai jamais été aussi structuré de ma vie. Hein. Bon, j'ai un âge où je suis extrêmement structuré dans ma pensée. Et j'ai besoin de poésie, et surtout de non-sens. Ce qui m'intéresse, c'est le non-sens dans l'art, et ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Et Philippe K. Dick, parce que si vous voulez aborder certaines choses dans l'art, vous êtes obligé d'aller dans le non-sens et dans la explorer des territoires. Le LSD, bon, bah, c'était un des outils quand vous étiez jeune. On connaissait pas les dangers à l'époque. Hein. C'est ça aussi qu'il faut savoir dans les années 70. Mais c'est intéressant d'explorer. C'était intéressant d'explorer ce type d'outils, mais on peut l'explorer aussi par un refus, je dirais pas un refus de la réalité, mais un refus de la logique. Et on peut aller même plus loin dans la littérature, la non-fiction. C'est-à-dire, la non-fiction, très très bien, ce grand débat sur la non-fiction en Amérique, où ils disent, en gros, la littérature est en refus complet, donc les fictions, mais pas Netflix, hein, par contre, hein, ni les séries. Alors là, on vous joue la petite musique du scénario. Mais par contre, en littérature, il faut faire de la non-fiction, c'est-à-dire des chroniques. Moi, par exemple, je suis afghan, il faudrait que j'écrive un livre sur mon périple. Non, mon livre, c'est pas du tout ça. Hein,
on va en parler, justement.
Voilà, donc c'est ça l'idée aussi, c'est-à-dire de pouvoir ramener un peu de... Quand je dis psychédélique, c'est pas dans le sens drogue, psychédélique, dans le sens où vous explorez un peu autre chose que votre quotidien, quoi. Merde.
Mais c'est oui.
Désolé.
Bierwise, vous avez commencé à prendre des drogues très jeune, des acides, et vers 14 ans, vous avez
j'ai arrêté
un peu
très tôt aussi.
Ouais. Avant Taxi autres... Girl.
Ouais, j'ai commencé avant. Ouais. Très jeune, j'étais un peu en déshérence.
Ça permet de supporter le réel, les drogues. Ça donne accès à des réalités
bien
cachées.
Je paraphraserais Daniel, mais qui l'avait repris de Burroughs, hein. C'est-à-dire, c'est
Daniel Dark qui s'est quand même ouvert les veines avec un cutter sur scène.
Ouais, mais
pour
il
n'était
pas complètement
le...
défoncé encore à l'époque.
Ah, c'était comme ça pour.
Il faisait ça à l'âge de 16 ans déjà, là où il habitait, rue Cauchois. Et j'allais parfois chez lui. Il faisait ça dans la baignoire. Il était un peu suicidaire. Hein,
un
Daniel,
peu, ouais.
Hein. Donc et il s'était pas du chiquet, hein. C'est-à-dire,
ah
il
bah,
le faisait
j'imagine.
Vraiment comme ça, quoi. Et Daniel citait beaucoup Burroughs en disant bon bah voilà qui considérait pas la drogue comme un problème plutôt comme une solution, et moi j'irais plus loin, je dirais que les gens qui prennent des drogues, c'est pas bien, il faut surtout pas en prendre, mais par contre est-ce qu'on il faut les condamner alors que chaque jour est horrible pour certaines personnes et que c'est encore plus horrible alors qu'on ne sait pas que ça va être horrible. Donc
non pour ça la prise de drogue évidemment, je veux dire le réel est insupportable.
Non, mais moi, je vous parle, par exemple, de problèmes. On parle pas, même, je dirais, en Occident, mais aller au Pakistan, prendre des enfants de 5 ans dans qui recyclent des piles. Ils ont 5 ans, ils recyclent des piles. Ils ont aucun avenir. C'est-à-dire, ils ont déjà les mains défoncées, ils respirent les vapeurs, ils sont quasi morts, c'est des zombies. Donc, s'ils prennent des drogues, est-ce qu'on va les condamner plus tard? Ben voilà, donc c'est... Et donc, c'est un problème global qu'il faut résoudre d'une manière globale.
J'espère que ça va être le cas.
Ouais, on espère.
Ma bouche vit dans ta bouche, mes yeux vivent dans tes yeux. c'est parti. Je te prends, oui, je te prends comme on prend un pli. Car je te l'instinct et de la violence.
Back, le morceau de l'instinct sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Mirwais.
L'embellie. Eva Bester.
J'ai longuement réfléchi à la situation dans laquelle vous et moi nous nous trouvons. Et j'ai arrêté un nouveau plan. Nous allons construire des radeaux sur lesquels 40 hommes vont s'embarquer. Ils auront pour mission de trouver des vivres et d'essayer de nous rapporter un maximum d'indications qui nous permettront de savoir avec précision où est Eldorado et où sont les Indiens hostiles. Et j'ai toutes les raisons de penser que nous ne sommes loin ni de l'un ni des autres. Cette expédition devra être de retour ici dans une semaine. Par le fleuve ou par la terre. Si au délai fixé, elle n'est pas revenue, nous devrons considérer qu'elle a échoué. Et il ne nous restera qu'à retrouver nos propres traces, dans l'espoir qu'elles nous ramèneront vers une région gouvernée par nos frères chrétiens.
Mirwais, je vous ai demandé des œuvres pour être armé dans l'existence. Vous avez fait deux choix. Le premier, c'est le film réalisé en 72 par Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu, dont on entend un extrait et que je vous laisse évoquer. Il y a un parallèle que je ne peux pas m'empêcher de dresser avec Apocalypse Now, dans la jungle, la destruction, la folie, la réflexion sur le mal. La mégalomanie.
C'est-à-dire, Apocalypse Now, c'est un. Ils subissent. C'est la guerre. Bon, bah, on les envoie faire les boys. La Aguirre, c'est pas pareil, c'est la conquête.
Ouais, c'est l'homme qui décide lui-même.
Qui décide, c'est Pizarro, c'est l'Eldorado. Il a la conquête sauvage. La conquista, c'est une extermination, hein, quand même. Hein.
Ils veulent trouver l'Eldorado.
L'Eldorado, et puis surtout l'ambition. C'est-à-dire l'ambition qui
la mégalomanie.
L'ambition trop forte.
L'hubris, la corollaire, destruction.
Ben voilà, l'hubris. Donc voilà, c'est ça. Et donc c'est un très beau film à voir parce que d'abord c'est sublime. La musique de Popovul, qui est considérée comme les rois des babas quand moi avec Taxi Girl on faisait du punk. Faut quand même voir le tout début, hein. Le
oui,
tout début quand
il
descend de la montagne.
YouTube.
C'est fantastique les images. Et puis Werner Herzog, c'est un génie. Enfin, c'est quelqu'un
ouais, Werner Herzog. Et je recommande Conquête de l'inutile, c'est son journal
ouais,
de tournage.
J'ai pas lu encore, mais
c'est génial.
Ouais, ça a l'air super.
Vous avez choisi aussi. On parle toujours de mégalomanie, de réflexion sur le mal, sur la folie, la lucidité. Macbeth de William Shakespeare. Et pareil que Aguirre, c'est pour ne surtout pas faire comme eux.
Bah oui, Macbeth. C'est non, mais je pense que c'est l'exemple parfait.
C'est les crimes d'ambition pour le pouvoir.
Crime d'ambition, et puis surtout, là où Aguirre n'a pas de... parce qu'il n'est pas atteint par la culpabilité, ce qui est intéressant, ce qui est développé en plus de toute la violence et des noirs dessins de Macbeth, c'est la culpabilité. C'est que, en fait, si on fait un parallèle, par exemple, avec, je ne sais pas moi, les religions... Toutes les religions, il y a une très grande forme de culpabilité, la religion chrétienne, même le bouddhisme, la réincarnation, les péchés, tout ça. Dans Macbeth, c'est ça. C'est-à-dire, et pour aller encore plus loin, je pense que même la psychanalyse, même Freud, même les gens les plus athées qui soient, au centre de la psychanalyse, il y a la culpabilité.
Ah oui.
Donc c'est ça qui est intéressant dans Macbeth. C'est, ok, vous commettez des crimes, Dostoïevski, bon, on en parlait, vous commettez des crimes, mais ok, c'est pas Dieu qui va vous punir, mais est-ce que c'est votre conscience qui va vous punir, et si vous ne croyez pas à la conscience, est-ce que c'est une névrose qui s'installe? Donc c'est assez intéressant, Macbeth, parce qu'il y a tout réuni là-dedans.
Et justement, Dostoïevski, qui a été d'ailleurs utilisé par Freud pour comprendre l'âme humaine,
ouais.
Justement, un petit mot sur Nietzsche, Freud et Dostoïevski qui font partie de votre panthéon, Mirwais.
Bah, Nietzsche...
C'est toujours les bas-fonds de l'âme humaine.
Bah, Nietzsche, pour moi, c'est de la pré-psychanalyse. Comme Proust pourrait être de une sorte de psychanalyse littéraire. Mais Nietzsche, c'est intéressant parce que c'était quelqu'un qui avait une très très mauvaise santé, qui était à la limite, qui était, aujourd'hui on le qualifierait selon la classification américaine, je crois qu'elle s'appelle 4 ou B4, je sais plus, borderline. Mais en fait, ce qui m'intéresse chez Nietzsche, c'est son affirmation, malgré toute sa dépression, son mal-être et son et sa maladie, il affirmait un oui pour la vie. Il s'est jamais plaint. Après, il y a eu un effondrement moral, mais il ne s'est jamais plaint. Freud est intéressant parce qu'il est très contesté, Freud, actuellement, notamment par les courants. D'ailleurs, c'est marrant parce que Baudrillard fait malgré lui partie de ce qu'on appelle la French Theory, c'est-à-dire les Deleuze, tout ça, qui ont pas du tout fait recette dans les années 70 en France, mais ont été exportés et on a été repackagés, et c'est ce qu'on appelle la woke culture, hein, c'est-à-dire, enfin, la naissance de la woke culture vient un peu de là, hein, c'est-à-dire... Et donc, tous ces gens... Freud est contesté, justement, par une partie de la woke culture, mais aussi par beaucoup de gens, par les classifications américaines. Alors que je pense qu'on en a vraiment, vraiment besoin, hein, d'explorer l'âme humaine en ce moment. Hein, c'est...
Et Dostoïevski.
Non, mais Dostoïevski, c'est... D'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'on peut parler de la Russie en ce moment. Hein, c'est-à-dire, les Russes, les méchants...
On va parler de tout.
Non, mais là, c'est l'actualité. C'est-à-dire, les Russes, les méchants, mais... Ça a déjà été identifié, pas, je ne parle pas les méchants, hein, c'est-à-dire c'est une âme sombre, l'âme russe, pour, à cause du territoire aussi. Et puis ce sont des gens qui ont été asservis pendant très 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 longtemps.
Quand vous dites donc, le territoire, c'est pourquoi ? C'est les conditions climatiques ?
Les conditions de vie, c'est un territoire immense. Et,
géographique.
Et chaque régime depuis presque le Moyen-Âge n'a fait qu'asservir, y compris l'Union soviétique et puis même là maintenant. Donc du coup, bon, on peut comprendre qu'il y a des dysfonctionnements dans la société russe. Voilà.
Mirwais, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vous et de vos projets à vous. Vous aimeriez faire plus d'albums de musique de vous-même, dites-vous,
oui.
Et quelques livres en plus, et un film ou deux. Vous comptez adapter au cinéma votre roman à ouais. venir. Et justement, votre roman, c'est Les Tout-Puissants, qui sortira le ouais. 25 août chez Séguier. Ça parle de quelqu'un qui marche pendant 24 heures, c'est psychédélique, bien qu'il y ait une vraie histoire.
Oui, oui. En fait, c'est quelqu'un qui... marche dans les rues de Paris, hein. Je tiens à préciser Paris, parce que souvent les gens, ils veulent faire un truc, ils vivent à Paris, et puis ils veulent faire un truc à New York ou à Los Angeles, parce qu'ils voient des séries, vous voyez. Moi, c'est à Paris. C'est-à-dire, ça se passe là où je vis, quoi. Et donc Paris. Et puis il a des... non, en fait, il a des visions inexpliquées.
Ah.
Mais qui sont explicables à la fin.
Ça fait Kadic, ça.
Oui, c'est Kadic et un peu Burroughs. J'ai essayé de pas trop en mettre, parce que sinon, là, ça va devenir lourd. Et il y a une vraie histoire. Et surtout, malheureusement, je ne peux pas dévoiler le contexte. Parce que si je dévoile le contexte, il y a quand même un ressort très fort sur le contexte dans lequel il évolue. C'est une très légère dystopie. Alors, je sais que c'est un mot à la mode, dystopie, les mondes parallèles, surtout depuis le métaverse. Mais je pense qu'on est dedans, là. Ça pourrait être de là dans 6 mois, 1 an, quoi. Voilà. Donc, et aussi une réflexion sur aussi... sur beaucoup de choses. C'est un livre assez dense, en fait. Hein. Donc,
mais comme vos propos.
Ah bon ?
Bah oui.
Je sais pas, moi je
trouve. Si, ils sont très denses, parce qu'en fait,
jours,
en une phrase, vous.
Comme ça,
oui, mais dans une seule phrase, vous soulevez 4 idées différentes. C'est pour ça que moi, des fois, j'ai du mal à vous suivre.
Ah d'accord. Bon, bah.
C'est très dense. Il faut vous passer au ralenti.
Je vais parler plus lentement.
Mirwais, je vous ai demandé ce que vous aviez raté. Et vous m'avez dit, je ne crois pas au ratage ni au succès.
Non.
Ce sont des constructions artificielles. On fait ce qu'on a à faire ou on ne fait pas. Ce qui est parfois un très bon choix. Ne pas faire, tout dépend des circonstances. Est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous faites ce que vous avez à faire selon vous? Et qui décide de ce qu'on a à faire? Comment est-ce qu'on sait ce qu'on a à faire?
Bah, commencez déjà par faire une petite introspection. Qu'elle soit méditative ou psychanalytique, et apprenez à vous connaître.
Alors qu'on se fuit dans le divertissement en permanence.
Bien sûr, bah, on en revient au situationnisme.
Ah oui.
C'est-à-dire, je répète ce que disaient les situationnistes, la vie est une succession de moments inertes et que le seul remède à cela, enfin c'est une définition simple, hein, parce
oui.
que c'est plus complexe que ça, est de construire une situation, votre situation. C'est-à-dire, si demain vous voulez aller... comme le rêve hippie des années 70, aller dans le Larzac, ou si demain vous voulez faire... Alors malheureusement, c'est que... Le pire, c'est que les très méchants, ils ont très bien compris ça, hein, le situationnisme. Hein. C'est-à-dire, ils construisent leur situation. Hein, parce qu'eux, ils sont guidés par leurs pulsions.
Alors pour revenir justement à des actes non commis par des très méchants. Bien ouais, est-ce que c'est vrai qu'à la fin des concerts de Taxi Girl, Daniel Darc disait au public « Vous avez aimé le concert,
oui.
Alors faites un groupe ».
Oui, bien sûr. Parce qu'on lisait de bord.
C'est super.
Non, mais il n'y a plus personne qui dit ça. Parce que quand il disait « L'art a été liquidé, il faut construire sa situation », c'est-à-dire « Ok, vous êtes allé voir un concert, vous êtes inspiré, faites la même chose ». Sauf qu'aujourd'hui, parce que le marketing et puis aussi le narcissisme des réseaux sociaux qui se développent, quelqu'un ne peut pas, un artiste puissant ne va pas laisser sa place. Ne va pas dire à ses fans, faites des groupes, concurrencez-moi, oui. Inspirez-vous de moi. Alors nous, on faisait ça, Daniel faisait ça, bien sûr.
Et vous, est-ce que vous faites ce que vous avez à faire selon vous ?
Bien sûr, c'est-à-dire, je pense... Moi, je pense qu'il n'y a pas de liberté dans la société.
On est aliéné en permanence, on s'aliène soi-même.
Aujourd'hui, disons que bon, absolument tout est payant maintenant, absolument tout. Donc, les libertés, puis il y a les contraintes administratives, si, ça, etc. Mais je pense que c'est une des personnes les plus libres que je connaisse. Parce que, pour quelques raisons pécuniaires triviales, je me suis affranchi dans les années 2000 de ça. Je n'ai pas extrait autant que j'aurais pu. Parce qu'il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui travaillent pour la survie, puis il y en a d'autres qui travaillent pour le confort, d'autres travaillent pour le yacht, d'autres pour le jet, et puis trois jets, et ainsi de suite. Vous voyez, moi, c'était pas ça. Moi, j'ai très rapidement compris. Par exemple, Los Angeles, ça m'avait pas intéressé au début des années 2000. Alors, d'autres y sont allés. Après, c'est leur situation. Hein. On va en revenir, que ce soit des gens comme Guetta ou d'autres. Bah, c'est leur situation. S'ils avaient envie d'y aller, ils y vont. Moi, je juge pas. Hein. C'est-à-dire, et moi, je pense avoir une forme de liberté extrême, quand même.
Donc, on a du pouvoir sur nos vies, selon vous, malgré toute l'aliénation autour.
Ça, c'est un rêve pieux des Occidentaux. C'est-à-dire, malheureusement, vous allez dans les pays à dictature, je dirais, où il y a des autocrates, c'est pas si simple. Hein. Malheureusement, vous n'avez pas ça. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut se rendre compte de la chance qu'on a. Enfin, moi, je l'ai dit dans mon livre, hein, il y a à peu près 15 pays vraiment démocratiques dans le monde. Hein. Et la plupart se trouvent en Europe. Donc, c'est pas mal. Donc, il faut en profiter.
Pour passer un extrait de votre morceau 2016 My Generation, ce qui sera sur votre prochain album Mirwais The Retro Future, parce que je vous ai demandé quelque chose de beau à recommander aux auditeurs. Et puis, vous avez répondu ceci: je ne crois pas qu'on puisse recommander quoi que ce soit de beau dans un monde de trolls et de haters. Toute proposition est forcément sujette à contestation et critique. Et puis, dans le morceau là qu'on vient d'entendre, vous faites aussi un constat de tout ce qui nous entoure, un constat assez cruel et lucide, mais vous ajoutez quand même: mais disons que la nature, c'est beau.
Ben oui.
C'est quoi la nature ?
Ben, la nature, je vais vous citer une phrase de Braque, le peintre.
Oui.
Alors attention, hein, moi, j'adore la culture et la peinture, qu'elle soit classique ou moderne, mais je ne passe pas mon temps dans les musées. Mais j'aimais bien cette phrase de Braque. À l'époque de Picasso, tout ça, il était là un jour, il était en train de peindre, je ne sais pas où, dans une forêt, il peignait un paysage. Et puis, je crois que Picasso arrive, je ne sais pas si c'est Picasso ou un autre, arrive et lui dit « Mais la lumière, là, le soleil est là et la lumière, elle est dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe ?» C'est pas naturel, il lui a dit ça, le gars. Et Braque le regarde et lui dit « Oui, mais enfin, moi, je suis dans la nature. Moi aussi, je suis dans la nature, donc je décide que la lumière va aller dans le sens contraire. » Donc, je trouve ça pas mal. La nature, c'est ça.
Ouais, vous déconstruisez tout, Mirwais.
Non, je ne déconstruis pas. C'est que la nature, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'absorption de tout, en fait.
Alors l'absorption de tout, on arrive à l'engagement de fin d'émission. Je le demande à tous les invités et vous avez dit comment répondre à une telle question. Ne pas y répondre est déjà un engagement en soi.
Oui.
Un engagement de quoi en quelques mots?
Ça revient à ce que
on
je disais sur le ne pas faire. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas que ne pas faire est un choix. Ne pas faire la guerre est un choix. Faire la guerre est un choix, mais ça c'est évident. Mais ne pas faire est un choix aussi. Et donc, moi si je décide de pas répondre à la question, c'est, en fait, c'est une réponse. C'est une réponse qui correspond peut-être pas à ce que vous attendiez, mais c'est une réponse quand même.
Bien sûr. Bon, d'accord. Merci beaucoup.
Voilà, merci
Mila Weiss d'être venu.
Merci.
On attend donc deux sorties, celle de votre album The Retro Future et celle de votre roman Les Tout-Puissants qui sortira le 25 août chez Séguier. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi épanouis qu'un radicchio venant d'assouvir sa colère. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.